Vous avez eu l'occasion d'interroger. Vous avez notamment posé des questions sur les passeports et les visas des présumés auteurs de cette attaque. Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur cette tentative de coup d'État, Eddy?
La seule chose que nous avons apprise est que ces gens sont venus par la province du Congo central, qui est voisine de deux pays, l'Angola et les Congo-Brazzaville. Mais là-dessus, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Peter Kazadi, s'est montré un peu réservé en disant qu'il fallait attendre les investigations qui sont en cours. Bon, quant à la nationalité, même s'il y a quelques doutes par rapport à Christian Malanga quant aux autorités américaines, le vice-premier ministre a dit qu'il détenait des passeports et que c'était là la preuve qu'ils étaient américains. Donc, en fait, il y en a quatre. Christian Malanga et son fils et les deux autres qui sont de blancs, en fait.
Le ministre a également évoqué d'autres nationalités parmi les présumés auteurs de cette attaque.
Oh oui, il y a notamment deux Britanniques. En fait, ce sont des Congolais qui ont acquis la nationalité britannique. Et les autorités congolaises, en plus de ça, parlent d'autres nationalités, mais ils ne disent pas assez. Mais il y a aussi des Congolais, comme l'a dit le vice-premier ministre Peter Kazadi, des Congolais qui ont été recrutés sur place, principalement dans la province du Congo central.
Merci pour ces précisions. Pourquoi des étrangers s'impliqueraient dans un coup d'État en RDC, se demande-t-on? Qu'aurait-il à y gagner? Bob Kabamba, votre avis?
Merci en tout cas pour l'invitation, merci aussi pour la question. C'est que lorsque l'on regarde le cheminement et les explications des autorités congolaises, on a du mal effectivement à croire qu'il s'agit véritablement d'une tentative de coup d'État. Par contre, lorsque l'on essaye de pouvoir suivre un peu même le cheminement de ce soi-disant commando, on se rend bien compte qu'il s'agit plutôt, on va dire, de tentative d'assassinat. Parce que même au niveau de l'ONU, de la MONUSCO à Kinshasa, il ne parle pas de tentative de coup d'État, mais il parle plus de tentative d'assassinat plutôt que de tentative de coup d'État. Et de plus en plus, cette thèse de tentative d'assassinat refait surface et de plus en plus crédibilisée par aussi le côté amateur de ce prétendu commando qui aurait l'intention de renverser donc le régime de Tshisekedi, en sachant par exemple pourquoi attaquer le palais de la nation, tout en sachant que le président de la République n'y habite pas et que le président de la République habite, on l'appelle la cité de l'OUA, et donc s'attaquer à plus ou moins des bureaux vides, cela ne va pas nécessairement...
Ce serait pour faire diversion selon vous?
On a l'impression que ça donne par rapport à tous les analystes que l'on a suivis, même par rapport à d'autres communiqués de presse, et ça semble plus ou moins un alibi pour essayer de masquer véritablement cette tentative d'assassinat.
Alors, des questions subsistent en effet sur le mode opératoire de cette tentative et certains estiment que ce n'est qu'une mise en scène. Qu'en pensez-vous, Frédéric Amani?
Il y a une mise en scène. D'abord, je ne voudrais pas entrer dans cette polémique ou tentative de coup d'État ou assassinat, mais ce qu'on doit comprendre, que ces assaillants jusque accéder dans le palais de la nation où l'ancien vice-premier ministre, qui est d'ailleurs actuellement président de l'Assemblée nationale, on doit noter là, n'est-ce pas, la défaillance des services d'intelligence ou les services de sécurité. Votre collègue l'a dit, ces assaillants sont venus du Congo central jusqu'à Kinshasa avec des tenis. Eh bien, on a là une défaillance dans les services migratoires ou des renseignements pour détecter ces malfrats, malheureusement. Alors, nous pensons que les enquêtes qui sont en cours vont davantage nous donner plus de précisions et tirer au clair ces assaillants. Est-ce qu'ils étaient, parce qu'il vous souviendra qu'au sein de l'Union sacrée, il y avait ce problème pour la désignation, n'est-ce pas, du bureau définitif. Heureusement, ça a eu lieu hier. Eh bien, est-ce que c'est ce problème qui conduisait à ce qu'ils s'en prennent à l'honorable Vital Kamerhe? On ne sait pas. Ou bien c'était, comme le prof Bob l'a dit, comment aller au palais de la nation alors que c'est vrai, officiellement c'est le bureau du président de la République, mais il ne passe pas beaucoup de temps là-bas. Eh bien, on constate qu'il y a une sorte de diversion et nous pensons que ce phénomène va permettre à ce qu'une restructuration des services de sécurité et de renseignement soit mise en place pour mettre à l'abri, n'est-ce pas, la RDC à ces genres de phénomènes de coups d'État ou d'assassinats qui, malheureusement, risquent encore de plonger le pays dans une guerre civile ou dans une instabilité et qui ne profitera pas, malheureusement, au peuple congolais.
Vous parliez à l'instant de l'élection à la tête de l'Assemblée nationale de Vital Kamerhe. Cette tentative survient également à un moment délicat où le président Tshisekedi s'efforce de contenir une offensive menée par les rebelles dans l'est de la RDC. Edi Sango, quels sont selon vous les facteurs internes qui pourraient avoir mené à cette tentative de coup d'État? Vous suivez au quotidien l'actualité en RDC.
Avant de répondre, permets-moi d'éclaircir un peu, parce que hier j'ai interviewé le vice-premier ministre. Quand il parle, selon lui, de coup d'État, c'est qu'il se base sur les propos, les déclarations de Christian Malanga lui-même, qui, dans des vidéos, a dit c'est fini pour le régime Tshisekedi, dégage. Donc, il se base sur ça et ils ont dit ils ont pris le pouvoir. Mais maintenant, ce coup d'État s'est passé dans un contexte où le pays est dans une guerre depuis plus de 30 ans, qui s'est d'ailleurs attisé dans l'Est, mais aussi il y a une partie aux portes de Kinshasa qui est aussi sous l'emprise de groupes armés qui menacent, qui tuent. Depuis maintenant 6 mois, les pays sont sans gouvernement. Les présidents ont été élus en décembre, mais depuis, la coalition qui est au pouvoir peine à mettre sur pied un gouvernement. Ce n'est que hier qu'on a pu avoir des dirigeants de l'Assemblée nationale où la première ministre, qui a été d'ailleurs nommée il y a plus d'un mois, va présenter son gouvernement et l'a présenté et aussi son équipe.
Donc cette élection ouvre en effet la voie à la formation d'un nouveau gouvernement en RDC. Comment interprétez-vous la réaction du département américain qui ne reconnaît pas le présumé cerveau de cette tentative de coup d'État comme ayant la citoyenneté américaine? Cela ne décrédibilise pas un tout petit peu les premières informations avancées par les autorités congolaises, professeur Bob Kabamba?
Oui, il faut vraiment être très prudent parce que lorsque l'on a des informations qui sont transmises par le gouvernement congolais, et à chaque fois il y a toujours des doutes par rapport à la véracité de certains faits qui sont généralement relevés par le gouvernement congolais. Et de ce fait, je pense que du côté américain, il s'agit aussi d'être très 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 prudent parce que l'on parle effectivement de tentative de coup d'État, ce qui veut dire que s'il y a des citoyens américains qui sont impliqués, ça aurait des répercussions par rapport aux relations entre le Congo et les États-Unis. Et je pense que c'est dans ce qu'il y a du côté américain est aussi justifié par le fait que le Congo étant dans une situation véritablement difficile, comme l'a dit tout à l'heure le collègue sur le plateau, que ça pourrait être une espèce de basculement du positionnement des États-Unis par rapport à la situation de la RDC. Et donc ces deux faits poussent véritablement les Américains à être très prudents. Attendons les prochains jours pour avoir une confirmation véritable de ce que l'on pourrait peut-être qualifier de tentative d'assassinat plutôt que de coup d'État. Et je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, que ce soit plutôt une lecture vers l'assassinat plutôt que vers les coups d'État, bien que le premier responsable dans son discours a évoqué le fait que c'était pour essayer de renverser le président Tshisekedi.
Frédéric Abani, à l'instant vous parliez de failles sécuritaires plutôt qu'une affaire de tentative de coup d'État. Selon vous, est-ce que cet incident pourrait-il refléter une lutte interne pour le pouvoir en RDC?
Bien, cette idée n'est pas exclue. Vous savez que dans la gestion sécuritaire des défenses, le bien le plus précieux entre les États, c'est l'information. Et c'est pourquoi j'ai fait allusion à cette faille-là d'information. Or, on a une bonne information grâce au service des renseignements avec son jumeau, l'espionnage des services d'intelligence pour détecter, n'est-ce pas, tous les cas d'infiltration. Et bien, il y a cette bataille, que ce soit au niveau des lignes sacrées par rapport à l'Assemblée nationale, mais aussi par rapport au positionnement des uns contre les autres, où on a vu certains leaders aligner leur fils, leur sœur ou leur cousin, leur neveu. Et bien, lorsque l'autorité morale ou le présidium refuse d'adhérer à leur désir d'errata, ça peut créer des frustrations. Et il faut être alors en mesure de gérer ces frustrations. Et au niveau de l'Union sacrée, mais aussi au niveau de l'ensemble du pays. Donc, nous pensons que le gouvernement congolais va travailler davantage pour gérer les intentions ou les ambitions des uns et aussi, n'est-ce pas, mater toute velléité expansionniste ou des brigands qui s'en prendraient à défier l'autorité de l'État. Je crois que en plein cœur de la capitale, il est important que les services soient en alerte et que ce genre de phénomène ne puisse pas se reproduire, sinon on risque d'être dans un éternel recommencement où le pays veut décoller, mais il y a encore des pesanteurs qui le tirent vers les bas, malheureusement.
Avant de retrouver quelques commentaires de nos téléspectateurs, Idi Isango, on se pose des questions sur le timing de ce vote à l'Assemblée nationale qui a eu lieu hier, 3 jours après ce coup d'État. Ce vote était-il prévu depuis ?
Oui, il y avait un calendrier qui était déjà mis sur pied, donc bien avant que les coups d'État ou la tentative de coup d'État n'arrive. Mais il faut dire que c'est quand même beaucoup de temps que ça a pris. Il y avait de la pression même au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui se sont mis à menacer de renverser les bureaux provisoires, les bureaux d'âge qui étaient là, parce que bon, ça en avait marre comme le peuple le pousse. L'un des facteurs que j'avais oublié de le mentionner dans le contexte de ces coups d'État, c'est aussi la grogne au niveau de la population qui souffre. Et d'ailleurs, les leaders de putschistes a récupéré cela pour dire, voilà, nous les soldats, nous souffrons, la population souffre, on en a marre. C'est un peu ça.
Et que pensent nos téléspectateurs de cette tentative de coup d'État en RDC? Nous avons recueilli quelques réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Darien José de Bukavu en RDC nous dit que c'est juste du théâtre. Archiduc Théodore de N'Djamena, cette tentative de coup d'État en RDC est un acte dans l'intention de ramener cette nation à l'état embryonnaire par des hors-la-loi, que ses assaillants soient punis sévèrement et que des enquêtes soient menées pour détecter leurs complices à la source. Yao Kofi Marcelin, à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous dit que l'accession au pouvoir par un coup d'État militaire doit être condamnée, peu importe les raisons. C'est le lieu ici de féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont déjoué ce coup de force. Merci pour vos différentes réactions. Et comment les événements du 19 mai à Kinshasa pourraient changer notre compréhension de la situation politique en RDC? On se retrouve juste après la pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum sur VOA Afrique. Nous revenons sur la tentative de coup d'État en RDC le 19 mai dernier avec mes invités. Bob Kabamba, professeur de politologie africaine à l'Université de Liège en Belgique. Nous avons en RDC Frédéric Kamanan, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Et avec moi ici en studio, Eddy Isango, journaliste au service Lingala de VOA. Eddy, je suis avec vous. Comment la population congolaise perçoit-elle ces événements? Y a-t-il eu des réactions?
Il y a, comme les analystes l'ont dit, un peu de doute dans cela, parce que bon, il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent. Les gens, certains pensent que c'est de la mascarade.
Comme un de nos auditeurs qui vient de dire que c'est du théâtre.
Certains pensent que c'est bien vrai, ça s'est passé, mais on voit qu'il y a, il y a de l'attention. Il y a certains qui pensent, en fait, que ça a été poussé par les gens du pouvoir pour qui s'affrontent pour essayer d'éliminer celui-là ou l'autre. C'est un peu ça. Donc et surtout que ça se passe dans les cadres de au moment où il n'y a pas de gouvernement et il y a une lutte de positionnement pour le gouvernement qui va être mis sur pied.
Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le profil du présumé cerveau de cette attaque, Malanga?
Malanga.
Était-il connu?
Oui, il était connu de Congolais. Il vivait ici aux États-Unis et 41 ans. Et il était un homme d'affaires, mais il se présentait comme un commando, quelqu'un qui se connaît ou qui a travaillé ici dans l'armée américaine. Il présentait beaucoup d'armes et il présentait aussi ses ambitions d'aller se présenter comme un comme le président de la République. Il a essayé de briguer en 2011 et il menaçait même de renverser à cette époque-là déjà le pouvoir si jamais le président Joseph Kabila prolongeait son mandat. D'ailleurs, avec le premier ministre, le vice-premier ministre avec qui je parlais hier, il a dit qu'il était recherché au Congo depuis 2009, mais il était aussi à l'ancien ancien militaire de la RDC qui a fait défection. Certains pensent qu'il était rentré au Congo pour essayer de prêter main forte comme il s'y connaissait en matière d'armes.
Intéressons-nous aux éventuels impacts que cet événement pourrait générer. Quels pourraient être les impacts internationaux de cette présumée tentative de coup d'État, surtout avec l'implication alléguée de ressortissants étrangers, Monsieur Kamamba?
Oui, c'est là où véritablement qu'il y a des signaux qui vont plutôt aller dans le sens de dire oui, le PPM, donc le ministre de l'Intérieur, précise bien effectivement dans ses interventions que ce commando est venu de l'extérieur de l'étranger, c'est-à-dire impliqué deux pays, soit le Congo-Brazzaville, soit l'Angola. Et nous savons très bien que ces deux pays ont des relations un peu tendues ces derniers temps avec Kinshasa, notamment dans le cadre du processus de Luanda, qui patine entre les négociations entre le Rwanda et le Congo, sur la crise à l'est donc du pays. Et ces deux pays, l'Angola et le Congo-Brazzaville, ont à plusieurs reprises demandé à Kinshasa de pouvoir aller vers des négociations plutôt que d'aller dans le sens de la guerre. L'autre implication aussi au niveau international, c'est le fait d'avoir des nationalités différentes au sein de ce groupe. Et c'est là où généralement on donne comme interprétation au niveau africain que lorsque vous avez des ressortissants étrangers qui s'impliquent dans une tentative de coup d'État, on ne voit pas la nationalité, mais on voit le pays dont sont originaires ces étrangers. Et donc l'analyse qui va être faite, c'est-à-dire que Kinshasa est en train d'être lâché d'une part par les pays voisins et d'autre part par la communauté internationale symbolisée essentiellement par les Américains et par la Grande-Bretagne. Et les différents communiqués que l'on a, on voit bien qu'on hésite à aller dans ce sens-là puisque y aller, ça va vouloir dire qu'il y a implication internationale par rapport à une tentative de coup d'État et ce qui aurait comme conséquence l'isolement du gouvernement de Kinshasa, surtout au moment où il doit faire face à la rébellion comme on l'a dit tout à l'heure et que Kinshasa n'arrive toujours pas à pouvoir freiner l'avancée de ces rebelles qui se retrouvent aujourd'hui à la porte de Goma. Et donc ces événements vont véritablement fragiliser encore beaucoup plus le gouvernement congolais.
Monsieur Emmanuel, un avis?
Pardon?
Quelles pourraient être, selon vous, les éventuelles implications politiques de cette affaire, vu que les autorités congolaises ont affirmé qu'il y a des étrangers qui sont impliqués dans cette tentative?
Bien, je pense qu'il faut bien peser ces informations. C'est vrai, nous saluons les efforts qui sont en train d'être menés de part et d'autre pour arriver, n'est-ce pas, à rétablir les responsabilités. Mais au niveau régional, je crains que ça soit, comme le prof l'a dit, une sorte d'isolement de la RDC. Déjà, il y a des relations tendues avec le Rwanda. Eh bien, l'Angola joue la médiation, mais qui, jusque-là, ça ne marche pas. Je sais pas. Et si déjà les 9 voisins ou les quelques voisins manifestaient ce soutien aux assaillants ou aux rebelles, eh bien, je crois qu'il y a lieu là que la RDC recadre les tirs et pense à bien restaurer ces bons voisinages avec le Congo Brazza, l'Angola, pour que l'ennemi ne puisse pas en profiter. Nous pensons que les autorités congolaises vont y travailler et que ces États, dans le cadre que ce soit de l'Union africaine ou de la SADC ou des CEAC, parce qu'ils sont membres de part et d'autre, eh bien, ne vont pas autoriser cela. Il faut beaucoup de prudence pour affirmer que tel ou tel État serait derrière les assaillants, mais il faut que ces enquêtes aboutissent à des résultats escomptés pour clarifier les responsabilités des uns contre les autres.
En effet, cette tentative de coup d'État a lieu dans un contexte régional assez tendu, avec de fréquentes accusations de déstabilisation. Mais on a vu que la SADC a réagi et a condamné cette tentative de coup d'État. Cette sortie ne pourra-t-il pas apaiser un tout petit peu les autorités congolaises quant à l'accusation éventuelle de voisins dans l'implication de cette coup de tentative, Monsieur Kabamba?
Oui, il faut bien se rendre compte que la SADC a comme principe de ne jamais valider les coups d'État parmi les pays membres. Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de la SADC. Donc, toute tentative de coup d'État, quel que soit l'endroit, pas seulement au Congo, quel que soit l'endroit, a toujours été condamné par la SADC. C'est dans les principes fondateurs donc de la SADC. Autre aussi chose à souligner, c'est que de plus en plus, on a vu ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec les différentes coups d'État qui ont eu lieu dans plusieurs pays. Et la crainte, souvent, c'est qu'il y ait une contagion de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. On a déjà eu le Gabon. Et alors, on suppose que ça ne va pas s'arrêter au Gabon. Ça peut aller toucher d'autres pays. C'est une façon, effectivement, de pouvoir véritablement freiner, en fait, cet appel à pouvoir, lorsqu'il y a des difficultés dans un pays, des problèmes de gouvernance, des problèmes de sécurité, toute une série d'autres problèmes, qu'on puisse recourir à un coup d'État. C'est une façon de rappeler aussi à l'ordre des pays de la SADC, de rappeler à l'ordre qu'ils n'accepteront pas s'il y a des tentatives de coup d'État au Congo. Mais aussi souligner que du fait que le Congo, la situation, elle est quand même suffisamment bloquée en interne, comme l'a dit Monsieur Amani, en interne, mais aussi au niveau régional, mais aussi au niveau continental et au niveau international. Et le Congo est de plus en plus isolé par rapport à toute une série de questions, et ce fait nouveau va accréditer, justement valider la thèse de la fragilité du système congolais, la fragilité du système sécuritaire congolais, et là va avoir des conséquences aussi par rapport aux relations d'autres pays. Le Congo étant un pays au milieu de l'Afrique centrale et aussi de l'Afrique de l'Est, une déstabilisation du Congo aura certainement des impacts sur l'Angola, sur le Congo-Brazzaville, Centrafrique, Sud-Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et voire même la Zambie. Et donc, ce fait qui vient de se passer va à nouveau mettre en alerte en fait tous les autres pays, et qui, malheureusement, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas une impulsion qui est donnée par Kinshasa pour essayer de rassurer ces pays voisins, nous risquons dans les prochains jours d'avoir encore une autre tentative, ou bien d'autres qui vont essayer de pouvoir solutionner des problèmes qu'ils connaissent en pensant que les coups d'État sont véritablement une possibilité de pouvoir résoudre les questions quotidiennes, les problèmes que rencontrent les Congolais aujourd'hui.
Monsieur Amani, un commentaire sur cette sortie de la SADC qui, à la suite de l'Union africaine et des États-Unis, a condamné cette tentative de coup d'État?
Oui, la SADC a condamné. Hier, je crois aussi, la CEAC, j'ai lu les communiqués. Je crois que c'est une façon, les deux organisations, de rassurer leurs membres, qui est la RDC, du soutien qu'ils apportent au gouvernement sous la conduite du président Félix. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser que ce soit ces assaillants soient considérés comme des amateurs ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a lieu là que la RDC, au niveau interne, puisse, n'est-ce pas, recadrer les tirs et colmater les brèches afin que de tels événements ne puissent pas se reproduire. Mais aussi au niveau régional, la RDC doit davantage, comme c'est la volonté, je l'espère, du président Félix, de s'ouvrir à d'autres, eh bien, d'arranger cette relation de bon voisinage entre le Brazzaville, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et d'autres pays, et aussi d'appliquer, n'est-ce pas, la feuille de route de Luanda, qui voudrait que lorsque l'approche militaire échoue, eh bien, l'approche politique ou diplomatique peut être mise en exergue pourvu que la paix revienne à l'Est, parce que on ne le dit pas assez, la sous-région, le conflit à l'est de la RDC affecte directement ou indirectement la sous-région des Grands Lacs, et on risque, n'est-ce pas, si les États de la sous-région ne font pas des efforts, ça risque d'embraser toute la région des Grands Lacs, et ce sera...
Vous abondez donc dans le même sens que le professeur Bob Kabamba. Je vous remercie pour vos commentaires, monsieur. C'est la fin de ce Washington Forum. Bob Kabamba, professeur de politologie africaine à l'Université de Liège. Frédéric Amani, chercheur associé à l'Université de Lubumbashi, avec moi ici en studio. Edil Sango, journaliste au service général de VOA. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Rendez-vous samedi et dimanche pour la rediffusion de cette émission.